Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous sommes au Venezuela qui vote ce dimanche un scrutin sans l'opposition, sans Juan Guaido qui boycotte pour la plupart, un Nicolas Maduro qui a toujours des soutiens. Un scrutin aussi sans observateur digne de ce nom, mais qui peut-être va refermer justement la parenthèse Guaido, permettre à Nicolas Maduro de s'en sortir plus fort. On le voit dans un instant, on y vient tout de suite. T'as vu le pasteur, c'est une femme. Le bruit du monde est en Suède, dans l'église luthérienne, qui désormais a plus de femmes pasteurs que d'hommes. C'est une grande première mondiale et c'est Frédéric Faux qui nous y emmène. Le bruit du monde, la suite, et Amélie Perrier avec du chocolat au Ghana et en Côte d'Ivoire, avec des prisons qui se vident au Sri Lanka, un radiotélescope qui tombe à Puerto Rico et des nouvelles de ce fameux monolithe de l'Utah qui décidément voyage. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est Pierre Benazé. On parle de frontières de Schengen et de ski, on parle de relations avec la Suisse et aussi des suites politiques de cette partie fine qui amuse Bruxelles et embarrasse la Hongrie. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four qui reste en Europe avec l'héritage de Valéry Giscard d'Estaing. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Thomas Posado.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur associé au Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Je le disais, des élections législatives ont donc lieu ce dimanche au Venezuela, qui verront sans doute une victoire de Nicolas Maduro et pour cause, l'opposition boycotte ce scrutin, malgré une situation économique dans le pays qui est au-delà de catastrophique. Bien sûr, on y viendra. Mais Thomas Posado, même avant ce scrutin, y compris dans de mauvaises conditions démocratiques, l'opposition n'a-t-elle pas perdu parce qu'elle n'a pas su se fédérer, parce qu'elle n'a pas su faire bloc?
Effectivement, ce constat pour l'opposition est un constat d'échec, effectivement. Alors il y a une partie de l'opposition qui accepte malgré tout de participer au scrutin, mais qui est vue comme une partie extrêmement minoritaire. Ce ne sont pas les principaux dirigeants de l'opposition qui participent au scrutin et qui essayent de capitaliser le mécontentement des Vénézuéliens contre le gouvernement Maduro. Mais leur pari est perdu parce que l'abstention sera sans doute massive et que les opposants n'arrivent pas à avoir une stratégie politique qui leur permette de renverser Nicolas Maduro. Cela fait déjà plusieurs années que ça dure, mais on est dans cette situation d'impasse stratégique pour l'opposition vénézuélienne.
Et est-ce que le boycott n'est pas stratégiquement une erreur? Je ne sais pas, vous allez nous le dire, vous nous avez parlé d'une opposition qui y va quand même, on parle d'Enrique Capriles par exemple, qui est sur une ligne plus modérée, mais est-ce que l'un des arguments ne serait pas été attendu? On est en train de donner une légitimité démocratique à Nicolas Maduro au fond, quand Guaido de son côté aurait besoin, lui, d'une légitimité, puisqu'il est au fond autoproclamé. Donc est-ce que la stratégie est la bonne selon vous?
Alors c'est toute la question, c'est une question où il n'y a pas une seule réponse, hein. C'est une question qui fait débat au sein de l'opposition. Est-ce qu'il faut participer à un scrutin dont on juge que les conditions ne sont pas transparentes et dont on juge que les conditions sont pipées? C'est un vrai débat. Et si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Est-ce qu'on appelle à une intervention étrangère, comme le fait les partis les plus radicales, les plus extrémistes de l'opposition vénézuélienne? Donc c'est un vrai débat qui fait un degré de nuance au sein de l'opposition vénézuélienne, entre ceux qui acceptent de participer malgré tout, ceux comme Enrique Capriles, qui était le leader de l'opposition vénézuélienne aux élections présidentielles en 2012 et 2013, qui acceptait sous certaines conditions et qui finalement n'a pas participé parce qu'il n'y a pas eu un report de l'élection présidentielle comme le demandait l'Union européenne. Ceux comme Juan Guaido, qui refusait d'y participer mais qui veulent rester dans une position d'arbitre, et ceux qui sont carrément comme Maria Corina Machado, dans des positions beaucoup plus extrêmes,
et à appeler la communauté internationale.
Participation est toute... C'est ça, et que tout dialogue est une concession, que toute participation des élections est une concession aux dictateurs, au régime, à ce totalitarisme communiste, comme ils utilisent comme terme. Le régime de Nicolas Maduro. Donc c'est un vrai débat où je pense qu'il n'y a pas une solution en soi. Et par contre, cette atomisation de l'opposition est une des raisons pour lesquelles Nicolas Maduro se maintient au pouvoir.
Et alors, j'allais vous demander pourquoi atomisation. Au fond, est-ce que Juan Guaido, à la tête d'une assemblée nationale qui a été effectivement vidée de ses pouvoirs, est toujours le chef de cette opposition? Jusqu'à quel point il ne fait plus l'unanimité, ce garçon?
Alors, Juan Guaido a peut-être laissé passer son moment, c'est-à-dire que au moment de 2019, il apparaissait comme une nouveauté, il apparaissait y compris pour des secteurs qui ne sont pas forcément d'opposition, la solution du tout sauf Maduro, c'est-à-dire quelqu'un qui peut permettre de mettre fin à ce président qui n'arrive pas à régler cette crise économique majeure. Aujourd'hui, il y a eu différentes affaires qui l'ont impliqué, dont des affaires de corruption, alors de ses proches, pas forcément de lui directement, l'affaire du débarquement avorté dans les environs de Caracas en mai dernier, alors où c'était pas Juan Guaido en tant que tel, mais c'était certains de ses proches qui avaient signé des documents, etc. Donc un certain nombre de choses qui font que sa stratégie est jugée pour beaucoup trop radicale et pas une réussite. Sa stratégie également d'avoir essayé de faire appel à l'armée, alors que c'est le principal atout de Nicolas Maduro, plutôt que d'encadrer une mobilisation de terrain, d'organiser une mobilisation de terrain au Venezuela même, a suscité des débats au sein de l'opposition vénézuélienne et est considéré comme une des raisons de l'échec de Juan Guaido. Son projet politique, un projet qui est plutôt libéral, est-ce qu'il est de nature à susciter les attentes d'une population vénézuélienne qui souffre de maintenant six années de récession consécutive, c'est aussi une des questions et où visiblement Juan Guaido n'a pas réussi à apporter de réponse à ce jour.
C'est fou, Thomas Posado, quand on vous écoute, parce qu'on se dit que dans un pays, vous l'avez un peu évoqué, mais on est dans une situation économique qu'on n'arrive même pas à chiffrer, dans une hyperinflation qui dépasserait les 5000%. On ne sait même pas ce que ça peut vouloir dire, ce que ça représente, tellement c'est énorme. On est dans un taux de chômage qui est tellement monumental que la moitié de ce pays ne travaille pas. Et pour autant, on a l'impression, en vous écoutant, que l'opposition à Maduro ne sait pas lire le pays. On parlait de des gens, effectivement, qu'on n'arrive pas à fédérer. Vous parlez de l'armée tout à l'heure, dont cette opposition a espéré à un moment qu'elle se soulèverait contre Maduro. Ça n'a absolument pas été le cas. Pourquoi il y a cette lecture qui ne fonctionne pas? Et je vais même aller plus loin. Ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui tient réellement dans ce pays, le chavisme, et qui est extrêmement fort.
Alors effectivement, il y a un noyau dur de la population qui continue à croire à Nicolas Maduro par fidélité aux années dorées des premières années de la présidence d'Hugo Chavez. Ce noyau, il est sans doute très minoritaire aujourd'hui dans la population, au vu des difficultés économiques et au vu d'une mise en minorité électorale très nette de Nicolas Maduro. Si Nicolas Maduro se maintient au pouvoir, c'est aussi parce qu'il arrive à créer les stratagèmes autoritaires pour que cette opposition se divise. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, il a fait en sorte que un des partis d'opposition, sa direction a été dépossédée de ce parti, et c'est une autre direction alternative nommée par le tribunal suprême de justice qui a récupéré. Même chose pour des dissidents du chavisme, des dissidents de gauche qui ont organisé une petite coalition avec le parti communiste, dont le parti a été dépossédé de ses dirigeants pour qu'il soit confié à des gens proches du gouvernement. Donc c'est aussi ces mécanismes autoritaires qui maintiennent Nicolas Maduro au pouvoir, et c'est aussi la stratégie qu'a voulu l'opposition, c'est-à-dire de plus s'orienter vers l'armée, vers le soutien de l'étranger, qu'une organisation de la population elle-même, et qui fait que aujourd'hui le résultat est tel que la population se voit un peu orpheline de cette représentation politique. Elle n'adhère pas forcément à Nicolas Maduro, mais elle ne voit pas en Juan Guaido une alternative évidente pour gouverner le Venezuela.
Et si elle ne se soulève pas d'ailleurs, est-ce que c'est aussi parce que quand on est dans un tel état économique, on a bien d'autres choses à penser? Est-ce que c'est ça aussi l'une des raisons? On sait qu'il y a entre 4 et 5 millions même de Vénézuéliens qui ont quitté le pays pour quitter la situation économique terrible et qui se sont retrouvés d'ailleurs coincés à certains égards par le Covid, y compris dans les frontières qu'ils avaient traversées. Est-ce que c'est aussi pour ces raisons-là qu'il n'y a pas de mouvement au Venezuela en ce moment? On a l'impression d'un statu quo qui ressemble à une impasse.
Oui, alors c'est une impasse politique absolue et où on ne voit pas la fin. C'est le propre d'une impasse. Alors les Vénézuéliens continuent de se mobiliser. On a chaque mois des centaines de mobilisations sur les problèmes de la vie quotidienne, des pénuries d'essence qui sont massives, des panne d'électricité, d'eau, de gaz. Donc vous voyez, en temps de Covid, avoir des pénuries d'eau, c'est un petit peu problème pour pouvoir se laver les mains, simplement, des pénuries d'aliments, etc. Ce qui fait qu'on est dans cette impasse, c'est que c'est mobilisations ne sont absolument pas articulées, que le gouvernement fait en sorte qu'elles ne soient pas articulées nationalement et que pour l'instant elles ne sont pas de nature à renverser le gouvernement de Nicolas Maduro. Pour combien de temps, je ne sais pas. Effectivement, cette asphyxie dans laquelle vivent les Vénézuéliens, c'est quelque chose qui peut provoquer, ou n'importe quoi, peut-être une étincelle qui provoque de nouvelles manifestations, une insurrection populaire, je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais la situation est telle que les Vénézuéliens n'ont pas grand-chose à perdre, mais aussi qu'il y a cette espèce d'apathie et cette espèce de renoncement dans lesquels, enfin, ces élections législatives n'apparaissent absolument pas comme une solution pour une large majorité de la population vénézuélienne, qu'elle soit favorable ou pas à Nicolas Maduro, ou qu'elle soit favorable ou pas à Juan Guaido.
Est-ce qu'il faudra les lire quand même, ces élections législatives? Je pense au taux d'abstention, par exemple. Est-ce que ça aura du sens de lire ça quand même? Ou quand on regarde les choses avec le regard d'expert que vous êtes, on se dit qu'il faut faire une croix dessus, au fond, parce qu'elles ne diront rien.
Alors vous soulignez, je pense, ce qui est le principal enjeu de ces élections, c'est-à-dire le taux de participation. Et plus il sera élevé, plus ce sera sans doute une légitimité pour Nicolas Maduro et pour sa majorité présidentielle. Plus il sera faible, ben moins ce sera un scrutin qui sera potentiellement légitime pour Nicolas Maduro. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des pressions par rapport au vote. Il y a quelques jours encore, Diosdado Cabello, qui est donc le président de l'Assemblée nationale constituante, vu comme le numéro 2 du régime, disait aux Vénézuéliens, si vous ne votez pas, vous ne mangerez pas, c'est-à-dire vous n'aurez pas accès à tous ces programmes sociaux que met en place le gouvernement et qui ont certaines dimensions clientélistes dans certains aspects, dans certains moments, etc. Et donc, il y a des pressions pour pousser les électeurs à aller voter. Alors, c'est une pratique qui est relativement ancienne au Venezuela, mais qui induit une participation supérieure à ce qui serait une participation volontaire des Vénézuéliens. Mais effectivement, le taux de participation est sans doute l'information qui sera la plus intéressante de ce résultat électoral. En deçà de quel opposant arrive à percer, est-ce qu'un opposant de gauche arrive à percer, est-ce qu'un opposant d'un parti plus radical, d'un parti plus modéré a réussi à gagner quelques circonscriptions, mais ce qui ne sera pas l'enjeu majeur national de ces élections.
Thomas Posado, est-ce que nous avons, quand je dis nous, la communauté internationale, les quelques 50 pays qui ont reconnu Juan Guaido, l'Union européenne aussi, est-ce que nous lui avons au fond tiré une balle dans le pied en reconnaissant un leader mais sans assise, et sans savoir non plus d'ailleurs exactement où il allait et où il pouvait emmener l'opposition? Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que ça l'a réellement servi, ou au contraire au fond desservi?
Alors Juan Guaido, il l'a recherché, ce soutien. Donc c'était quelque chose de volontaire. Hein. Les présidents ont cédé à une demande qui était celle de Juan Guaido. Est-ce que ça a servi le peuple vénézuélien? J'en suis très sceptique. Je pense qu'au contraire, ça a même été un obstacle supplémentaire, parce que derrière ces sanctions, derrière cette reconnaissance de Juan Guaido, il y a tout un tas de comptes qui sont gelés à l'étranger, parce qu'ils appartiennent à l'État vénézuélien. Et si l'État vénézuélien c'est Juan Guaido, à ce moment-là, l'État vénézuélien effectif, celui de Nicolas Maduro, n'a pas le droit d'avoir accès à ces comptes. Par exemple, il y a de 1,2 milliard de dollars sous forme d'or qui sont à la Banque d'Angleterre et qui font l'objet d'une contestation juridique en ce moment. Il y a des entreprises aux États-Unis qui pourraient amener des liquidités sur le territoire vénézuélien par leurs produits de leur vente, et qui sont bloqués, et dont les fonds sont gelés comme ça, sont confiés à cette administration Guaido qui n'est pas effective, et qui font que les difficultés que connaissent les Vénézuéliens sont encore pires que ce qu'elles seraient sans ces mesures-là. Donc, et les sanctions états-uniennes prises par Donald Trump aggravent encore davantage les choses, avec une dimension un peu extraterritoriale, comme pour Cuba et pour l'Iran, qui font que les souffrances que vivent le peuple vénézuélien sont encore pires. Enrique Capriles, dont vous parliez, questionne ces sanctions en disant en quoi on peut être légitime auprès de la population si on appelle à ces sanctions qui aggravent leurs conditions de vie. Donc on a une véritable problème de stratégie, où voir que la solution vient de l'étranger, c'est en partie le problème qui se pose à l'opposition vénézuélienne aujourd'hui.
Thomas Posado, vous avez évoqué Donald Trump, qui a même eu des velléités à un moment d'une intervention militaire au Venezuela. Alors on peut imaginer que c'était surtout beaucoup de bruit, comme l'a beaucoup fait Donald Trump pendant ces 4 ans-là, mais on dit aujourd'hui que Biden aurait des velléités de se rapprocher de Maduro, probablement parce qu'il se rend bien compte que l'ouverture vers l'opposition, elle n'existe pas, et puis que l'enjeu pétrolier derrière est quand même trop fort. Est-ce que c'est ce qui risque de se passer, et au fond d'enterrer donc cette opposition si l'Amérique reparle, on va le dire comme ça, avec Nicolas Maduro?
Alors cette opposition, je pense qu'elle existerait parce qu'il peut y avoir enfin un débat démocratique où il se reformerait, mais où effectivement les États-Unis seraient plus la principale ressource politique de l'opposition. Moi, je pense qu'une diminution de la tension, une diminution de ces sanctions états-uniennes serait souhaitable. Pour l'instant, Joe Biden n'a pas évoqué ces hypothèses publiquement, et il y a un relatif consensus bipartisan démocrate-républicain contre Nicolas Maduro jusqu'à présent. Alors peut-être pas avec les excès de Donald Trump, des menaces militaires, etc. Mais les sanctions faisaient l'objet d'un consensus, y compris aussi parce que l'électorat latino de Floride, en particulier l'électorat cubano-américain, qui a été un électorat décisif. Alors heureusement, la Floride n'a pas été nécessaire, mais ça a aidé à faire basculer la Floride dans le camp de Donald Trump. Et donc c'était pas quelque chose qui était à dire avant les élections. Est-ce que Joe Biden va le faire maintenant? Je ne sais pas, hein. Je suis pas un cynique de campagne. Ce serait souhaitable. Ce qui faisait dissensus entre les démocrates et les républicains, c'était le statut temporaire d'établissement sur le territoire américain, le TPS. Qui sera facilité, donc les démocrates ont annoncé, qui sera facilité pour les Vénézuéliens qui arrivent aux États-Unis. Est-ce que ces sanctions vont diminuer? Ça me semble tout à fait souhaitable. Est-ce que Joe Biden va le décider? Ça reste quelque chose d'autre. Effectivement, la stratégie états-unienne est un échec sur sa politique vénézuélienne, et ça me semblerait souhaitable d'alléger, voire de supprimer les sanctions que subissent les Vénézuéliens.
On les regarde en tout cas, ces élections qui ont donc lieu dimanche au Venezuela, et on regarde Thomas Posado, le taux d'abstention sur tout dans ce pays, ce sera l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup. Merci vraiment
de votre
passage
invitation.
Dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter.
La suite d'Un jour dans le monde, ce soir, c'est le bruit du monde, et ça se passe en Suède, avec l'église suédoise, église luthérienne, dont le clergé est désormais à majorité féminine. Madame la pasteur, s'il vous plaît, le bruit du monde sous les radars. Amélie Perrier, c'est une guerre du chocolat entre les producteurs et les transformateurs américains.
Ouais, un vrai bras de fer. D'un côté, Côte d'Ivoire et Ghana, ils produisent 2/3 du cacao mondial, et de l'autre, les chocolatiers américains qui ont verrouillé totalement le marché.
À tout de suite, comme chaque jeudi, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est Pierre Benazé ce soir. Pierre, bonsoir. Cette histoire de partie fine à Bruxelles avec un haut responsable hongrois, elle fait rire, mais les conséquences sont très sérieuses.
Effectivement, une descente de police, un député hongrois, des diplomates polonais, une fête un peu particulière, en tout cas interdite, une descente de police, et ses conséquences diplomatiques, politiques, budgétaires, européennes.
A tout de suite, le monde d'après, c'est vous Jean-Marc Four, bonsoir.
Guten Abend.
Vous restez en Europe, Jean-Marc, mais avec l'héritage de Valéry Giscard d'Estaing.
Oui, ses dernières volontés européennes, c'était en 2014, et nous allons voir qu'elles sont à la fois visionnaires et anachronique.
Allez, ne partez pas loin tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par le Royaume-Uni, tiens, on passe de partir lui. Céleste sur France Inter, Little Runaway, et c'est dans la playlist. Dreaming of a life, everybody got something. Staring at the sky, I don't see nothing coming. Thinking of my prayers, maybe they were all misplaced. Good news I could use some. One man revolution. Hallelujah, take me to you, 'cause I'm lost alone again. Hallelujah, take me to you. I don't believe, but I pretend. Your little runaway is running out of faith. So if you can, can you see me coming? Right out of the blue, gonna hit the clouds running. Are you even there, or is all of this misplaced? Le bruit du monde ce soir est en Suède avec une info qui plairait à notre copine Julia Foyce. Vous savez qu'en matière d'égalité homme-femme, la Suède est bien plus avancée que nous. Vous savez peut-être aussi que l'église luthérienne suédoise accueille des femmes depuis 1960. Là, c'est pas la première. L'Allemagne et la Suisse ont été plus en avance. En revanche, désormais, avec 1533 femmes contre 1527 hommes, l'église suédoise est devenue la première grande église dans le monde à avoir un clergé majoritairement féminin. Ça change beaucoup de choses et le reste, c'est Frédéric Faux qui raconte.
Bienvenue ici à l'église de Danderyd. Ce dimanche, et on va célébrer la messe.
À Danderyd, banlieue chic de Stockholm, la messe du dimanche est un rendez-vous qu'on ne saurait rater. Les paroissiens, assis sur de confortables bancs chauffants, voient s'avancer vers l'autel deux pasteurs. Un homme, Peter Sandin, et une femme, Christina Molander. Comme un symbole de cette parité enfin atteinte, les deux, ensemble, vont expliquer la parole et célébrer la scène. Mais le chemin pour en arriver là n'a pas été sans heurts, comme s'en souvient Berit, une des fidèles de Danderyd.
Dans les années 50, j'étais dans un groupe de jeunesse où tout le monde était absolument contre les femmes. Selon eux, l'apôtre Paul dit que les femmes ne doivent pas prendre la parole dans l'église. J'étais si triste, alors je suis partie. Je ne pouvais pas supporter que mes amis soient devenus si stupides.
Les trois premières pasteurs suédoises sont finalement consacrées en 1960. Mais les hommes réfractaires bénéficient alors d'une clause de conscience qui leur permet de ne pas officier avec des femmes. Et les débuts sont très lents. Eva Brune, première évêque au monde ouvertement lesbienne, en charge du diocèse de Stockholm, fut un témoin privilégié de ces soubresauts.
Certains n'étaient pas d'accord car ce n'est pas dans la Bible. Il y avait aussi des conservateurs dans leur vision du genre. Les hommes ont leur place et les femmes la leur, dans la maison, avec les enfants. La chose la pire que j'ai vécue, c'était quand on distribuait le journal du séminaire aux étudiants. Certains hommes ne voulaient pas le prendre avec leurs mains, comme si c'était sale.
Aujourd'hui, les femmes sont largement majoritaires dans les séminaires suédois et la formation même du pasteur en a été changée. Ingrid est une des enseignantes.
Si le pasteur, il y a 50 ans, était un homme assez grave et peut-être un représentant de l'État, une autorité, oui. Et maintenant, je crois qu'on voit le prêtre plus qu'une personne qui est dans l'égalité, plus proche, oui.
Dans l'église luthérienne de Suède, les femmes sont là pour rester. Mais l'égalité n'en est pas pour autant parfaite. Erik Gill, en charge des questions de genre au sein de la Svenska Kyrkan, reste donc vigilant.
Nous n'avons que 5 femmes sur 14 évêques. Et dans les postes de direction au sein des paroisses, comme les vicaires, il n'y a que 37% de femmes. La parité est une chose, mais il s'agit aussi de la répartition du pouvoir, d'être dans les endroits où les décisions sont prises.
Eva Brune, cependant, voit l'avenir avec confiance. Dans la salle de réunion du diocèse de Stockholm, elle nous montre avec malice la galerie de portraits des évêques de la ville. Tous des hommes, jusqu'en 1998, avec l'élection de la première femme, Caroline Krug, puis la sienne en 2009. Certains fidèles n'ont ainsi connu que des femmes évêques et ont même oublié ce vieux monde où la fonction était réservée aux hommes.
Je visitais une paroisse et une jeune fille dans le chœur voulait voir cette croix à mon cou. Alors je lui ai dit que c'était une croix d'évêque, reçue de Caroline Krug, qui était évêque avant moi. Et quand je mourrai, je la laisserai à un autre évêque. Et comme je parlais de Caroline, elle m'a demandé « Oh, est-ce que c'est seulement les filles qui peuvent devenir évêques ?» Je me suis retenue de rire et je lui ai répondu « Non, les hommes aussi peuvent devenir évêques. »
En 1990, un rapport estimait qu'il faudrait encore un siècle pour que les femmes obtiennent la parité au sein de l'Église de Suède. L'objectif a finalement été atteint avec 70 ans d'avance.
Et bravo Suédois et Suédoises donc, Frédéric Faux en Suède pour Un Jour dans le Monde. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite passe sous les radars et Amélie Perrier veille au grain.
Salut les gars, c'est juste pour vous montrer comment on fait le cacao. Vous êtes là, vous mangez chocolat, vous savez même pas comment.
Alors en l'occurrence, pas des grains ni des graines, mais des fèves. Ouais. Parce qu'on parle de chocolat, la Côte d'Ivoire, Amélie et le Ghana se sont lancés dans un bras de fer avec les multinationales américaines du chocolat.
Nouvelle réunion aujourd'hui à Yamoussoukro avec Mars et Hershey, les marques de chocolat américains. Pendant que des manifestations avaient lieu en Côte d'Ivoire et au Ghana. La suite, en fait, d'un bras de fer entamé au début de la semaine, Abidjan et Accra, accuse ces groupes de confiseries industrielles de ne pas vouloir payer une prime spéciale pour des cultivateurs de cacao pourtant négociés l'an dernier.
Tous les jeunes qui travaillent ici sont arrivés enfants. Ils sont là depuis des années, prisonniers de la forêt. C'est le cas d'Aziz.
Les parents de forêt, c'est là-bas ?
Ouais, ils sont à Burkina.
Ah, où ça ?
Ils sont à Burkina.
Alors vous avez peut-être vu tous ces reportages, dont celui-ci de Paul Moreira, sur l'exploitation des enfants dans les plantations de cacao. Des accords ont été conclus pour améliorer les droits et les revenus de ces travailleurs, mais les industriels du chocolat contournent ces mécanismes, disent les pays producteurs. Ivoiriens et Ghanéens, ces deux tiers de la production mondiale, ont donc suspendu Hershey des programmes de durabilité et de certification éthique. Mais dans ce bras de fer, les chocolatiers américains ont l'avantage du temps. Ils ont des mois et des mois de stock à leur disposition. De leur côté, les producteurs, eux, ne peuvent pas garder leur cacao trop longtemps au risque de le perdre. Les planteurs aujourd'hui ne perçoivent que 6% des 100 milliards de dollars par an du marché mondial du cacao et du chocolat verrouillés par les grands industriels.
Le Sri Lanka vient d'amnistier des centaines de prisonniers à cause du coronavirus.
Et des milliers d'autres vont être libérés. Le pouvoir est acculé et a dû réagir après le drame qui s'est joué dans la prison de Mahara, près de Colombo, la capitale. Alors ici, ce sont des familles de détenus en pleurs, furieuses après une mutinerie sanglante dans la prison. En fait, 180 contaminations à la Covid-19 ont été dépistées parmi les prisonniers, d'où la colère qui a explosé à l'intérieur de la centrale. Les prisonniers ont exigé d'être libérés par peur de tomber malade. Ils ont incendié les cuisines et un bâtiment administratif et pris en otage deux matons. Les gardiens ont ouvert le feu sur les mutins. Bilan, 9 morts et 113 blessés. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans un pays avec une telle surpopulation carcérale, 3 fois plus de détenus que de lits en prison. Les émeutes se multiplient ces dernières semaines. Alors le ministre de la Justice a décidé de libérer sous caution des milliers de prisonniers en détention provisoire. Et le président Gotabaya Rajapaksa vient d'accorder l'amnistie à 637 condamnés dans tout le pays.
Un monument s'est écroulé
sur l'île américaine de Porto Rico. Le radiotélescope d'Arecibo s'est effondré. La plateforme en forme de parabole de plus de 300 mètres de diamètre s'est écroulée. C'était un instrument très important pour les scientifiques, mais aussi pour les cinéphiles.
For England, James? No. For me.
Et là, il est tombé sur la parabole.
Oui, voilà.
Vous avez peut-être reconnu James Bond, GoldenEye, bagarre suspendue au-dessus du vide, tournée sur le site. Jodie Foster a aussi tourné à Arecibo. Le film Contact, dans son rôle d'astronome, elle utilise l'observatoire pour capter des signaux extraterrestres. En août dernier et début novembre, deux câbles ont rompu et troué la parabole. Irréparable, l'institution avait décidé de démolir la structure. Un désastre absolu pour de nombreux scientifiques. C'est par exemple grâce à ce télescope que les premières exoplanètes hors du système solaire avaient été découvertes. Désastre aussi pour des étudiants qui se formaient à l'astronomie dans l'observatoire. Arecibo était aussi l'un des principaux radars utilisés par la NASA pour observer les astéroïdes s'approchant de la Terre. C'est aussi un symbole de la dégradation de l'île de Porto Rico, frappée durement ces dernières années par des ouragans et le manque de budget pour reconstruire.
Et rapidement, Amélie, ça devient un feuilleton, c'est notre préféré, l'apparition du mystérieux monolithe.
Et le dernier en date, il a été découvert au sommet d'une montagne en Californie, à Atascadero. Là aussi, c'est une colonne triangulaire en métal, plus de 3 mètres de haut. Mais contrairement à la sculpture dans l'Utah, ce monolithe ne semble pas fermement ancré dans le sol. Et puis, on en avait retrouvé également un en Roumanie, vous l'avez peut-être vu ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Dernière information sur celui de l'Utah, on connaît désormais la raison de sa disparition, qui avait été tout aussi mystérieuse que son apparition. 4 hommes l'ont fait tomber avant de l'embarquer dans une brouette. C'est un sportif de l'extrême qui a posté des photos sur les réseaux sociaux. Il y était.
Voilà, ben moi, tant que je ne le vois pas dans le studio, j'y crois pas à votre histoire. Empruntez la brouette.
Il va finir par arriver jusqu'à chez nous.
Amélie Perrier, merci beaucoup. Vous avez gagné le droit de revenir et aussi d'écouter Léonard Cohen, Suzanne, sur France Inter.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone.
And you want to travel with her, and you want to travel blind. Je vous ai entendu chanter, Pierre Benazé. Allez, ça va être à vous.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union, général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Pierre, ce soir, ça commence par une partie fine dont tout le monde a entendu parler, qui n'a pas fini d'alimenter les conversations à Bruxelles. L'affaire, Pierre, a des ramifications politiques et budgétaires. On croit rêver en entendant cette histoire rocambolesque qui a fait les gorges chaudes de la bulle européenne de Bruxelles depuis 48 heures.
Effectivement, cette fameuse bulle de Bruxelles où gravite dans et autour des institutions européennes un microcosme de députés, de fonctionnaires, de lobbyistes, de journalistes aussi. Et depuis un communiqué de la police belge mardi matin, tout ce petit monde, sauf un, a commencé à s'emballer. Samedi soir, la dite police fédérale a fait une descente au-dessus d'un café du centre de la capitale belge pour disperser un rassemblement privé, complètement interdit en ces temps de confinement, un lieu situé approximativement à 74 mètres de la porte du commissariat principal de Bruxelles, soit dit en passant. Et ils sont tombés, les policiers, sur une partie fine, donc 25 hommes, surpris pour certains dans le plus simple appareil. L'un d'entre eux a même tenté de s'esquiver, de descendre par la gouttière, en se blessant d'ailleurs. Tout ça pour tomber sur le reste de la patrouille qui l'attendait en bas. Et c'est là que le fait divers a attiré l'attention, puisque l'homme en question n'est autre qu'un député européen pris la main dans le sac, et qui d'ailleurs avait une pilule d'ecstasy dans son sac.
Alors, on imagine donc que les couloirs du Parlement ont dû bruire de mille rumeurs assez rapidement, Pierre.
Oui, et tous les fins limiers du Parlement se sont lancés sur la piste, mais jusque-là, c'était de la simple curiosité amusée. Tous ont fini par se demander pourquoi un député hongrois avait démissionné sans raison apparente, dimanche matin, un député du Fidesz, le parti de Viktor Orban. Quelques heures plus tard, Jozef Sayer, puisque c'était lui, a finalement publié un communiqué pour s'excuser d'avoir participé à un rassemblement pas très Covid et affirmer que la drogue trouvée dans son sac ne lui appartenait pas.
Eh oui, et c'est là que l'affaire devient politique, voire budgétaire.
Politique parce que Jozef Sayer est un député qui non seulement faisait partie de très longue date du très conservateur Fidesz, et que c'est en plus un des architectes de la nouvelle constitution hongroise qui établit que le mariage est exclusivement l'union d'un homme et d'une femme. Pour ce père de famille marié, ça fait mauvais genre de participer à une partie fine entre homosexuels. Mais là où ça se corse, c'est que à cette soirée se trouvaient aussi deux diplomates polonais, et il n'en fallait pas plus pour que des complotistes polono-magyars crient à la conspiration à l'heure où les deux gouvernements sont en conflit avec les 25 autres pour leur obstruction au budget européen pour cause de désaccords sur l'état de droit.
Allez, quelle belle histoire. Un fait divers qui n'est donc finalement pas si divers que ça. Et pendant ce temps-là, Pierre, outre ces tractations budgétaires, Bruxelles se préoccupe des frontières de Schengen, celle-là même qu'il est très fortement déconseillé, peu recommandé, pas vraiment bien vu de franchir pour aller, par exemple, faire du ski.
Oui, tenez-vous le pour dit, vous le savez, pas de ski alpin cet hiver en Italie, en Allemagne, en France, mais ces trois pays n'ont pour l'instant pas réussi à convaincre trois autres pays de l'espace Schengen, Suisse, Autriche, Espagne, d'empêcher les sports d'hiver. Du coup, les menaces de contrôle pèsent de toutes parts sur ces fameuses frontières Schengen. La Commission européenne a la responsabilité d'assurer la fluidité de ses frontières intérieures, mais depuis mars, elle a choisi de laisser faire les gouvernements, de ne pas taper du poing sur la table en cas de contrôle intempestif. Mais aujourd'hui, elle a réuni un forum Schengen avec des députés et les ministres de l'Intérieur des 26 pays, l'espace de libre circulation, ou censé être tel. Ursula von der Leyen affirme que ces contrôles frontaliers doivent être un dernier recours. La commissaire au marché intérieur affirme, elle, que ces contrôles n'arrêteront pas les terroristes, mais bien les touristes, le transport et le commerce. Tout ceci sans pour autant taper du poing sur la table et chercher à contraindre les pays de rouvrir finalement leurs frontières.
Alors, une toute dernière chose, Pierre, les Suisses, puisqu'on en parle, ont rejeté dimanche dans une votation fédérale un projet pour imposer aux entreprises une responsabilité vis-à-vis de leurs fournisseurs étrangers pour l'environnement, les droits sociaux, les droits de l'homme. Mais à cause de l'Union européenne, ce projet pourrait revenir s'imposer aux Suisses.
Effectivement, parce que en Europe, les capitales, la Commission, le Parlement planchent sur un projet identique, et pour accéder au marché européen, toutes les entreprises, même suisses, devraient avoir à respecter de nombreuses règles sociétales sur le travail des enfants, la corruption, les délits environnementaux, et j'en passe. C'est un peu l'inverse du Brexit, si vous voulez, avec des règles européennes qui vont finir par s'imposer à un pays même pas membre de l'UE.
Pierre Benazé avec nous. Merci beaucoup, Pierre. À jeudi prochain, bien sûr, dans la bulle de Bruxelles, qui nous réserve donc bien des surprises. On reste en Europe.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Avec le monde d'après et Jean-Marc Four. Jean-Marc, à l'heure où Valéry Giscard d'Estaing vient donc de disparaître, vous vous penchez, vous, sur le livre Testament de cet Européen convaincu. Ce livre, Europa, préconise une union resserrée. Et en le relisant, vous le trouvez à la fois visionnaire et anachronique. C'est votre monde d'après.
L'Europe s'est arrêtée au milieu du gué, les fesses entre deux chaises. Voilà en gros le diagnostic posé par l'ancien président européen convaincu, on le sait, au fil de ses 180 pages parues en 2014. L'Europe s'est diluée à force de s'élargir, elle ne peut pas être seulement un agrégat de pays qui s'enguirlande en plus à chaque discussion budgétaire. Mais le plus intéressant, ce n'est pas le diagnostic, c'est le remède proposé par VGE, en fait les 50 dernières pages du livre, avec quelques idées qui secouent le cocotier. Petit inventaire. 1. Revenir à une Europe à 12, non à 27. À savoir les membres fondateurs, l'Allemagne, la France, le Benelux, l'Italie, et aussi des pays comme l'Autriche ou le Portugal. 2. Unifier ce groupe dans une zone euro avec un budget unique et une imposition homogène, ce qui est un projet très ambitieux vu les écarts de fiscalité au sein de l'Union. 3. Instaurer dans ce club resserré une prise de décision à la majorité qualifiée. Et on sait combien aujourd'hui l'Europe est paralysée par la règle du vote à l'unanimité. Et Valéry Giscard d'Estaing souligne combien une Europe plus intégrée, composée uniquement de partenaires de bonne volonté, serait plus forte face à la Chine ou aux États-Unis. Bref, ça vaut le coup de relire ces 50 pages. VGE avait beau avoir près de 90 ans quand il les a écrites, il y a quand même du gras à moudre.
Donc, visionnaire, mais aussi, vous dites, anachronique.
Oui, c'est-à-dire que les préconisations de VGE dans ce livre ont aussi un côté regard dans le rétroviseur. Je m'explique. L'ancien président s'est constitué politiquement lors des années 50 et 60, l'époque des fondateurs de l'Europe, via la communauté du charbon et de l'acier, et on le sent animé de la volonté de revenir au projet de départ. Il a du mal, par exemple, à accepter que des membres plus récents de l'Union puissent être dans le fameux club resserré. Il l'accepte du bout des lèvres pour l'Irlande et la Finlande, mais il ne l'envisage pas, par exemple, pour la République tchèque ou la Slovaquie. Il est ensuite peu audacieux sur la capacité de solidarité financière entre membres. L'idée retenue cet été dans le plan de relance européen post-Covid, l'idée d'un emprunt géant garanti par Bruxelles, va au-delà en fait des idées émises dans ce livre. Et surtout, ces préconisations restent de nature essentiellement budgétaire, fiscale. C'est l'ancien ministre des Finances qui parle. Et du coup, il néglige le sujet central, le déficit de projet politique, qui explique le manque d'adhésion populaire à l'idée européenne. Il aurait pourtant dû le savoir, tirer les enseignements de ce cinglant échec du référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Ce dont l'Europe souffre, c'est d'être resté un projet top-down, comme on dit en anglais, une idée économique promue par les élites, en haut, et auquel le peuple, en bas, est censé adhérer. Sauf qu'en démocratie, ça ne marche pas.
Donc vous voulez dire que le grand défi de l'Europe, c'est de retrouver un projet politique?
Exactement, c'est le meilleur moyen de redonner du sens à l'idée européenne, de retrouver une adhésion populaire. Et c'est précisément pour cette raison que l'Europe ne peut pas rester les bras ballants face aux bras d'honneur que lui adressent jour après jour la Pologne et la Hongrie. Pierre Benazet en l'évoquait à l'instant. Varsovie et Budapest l'ont redit avant-hier. Les deux capitales feront barrage au plan de relance européen tant qu'il sera conditionné au respect de l'état de droit. Pour le dire autrement, la Pologne et la Hongrie refusent que la politique dicte l'économie. On est donc bien au cœur du même sujet. Messieurs Mazowiecki, Orban veulent des subsides européens, mais veulent en même temps pouvoir bafouer l'indépendance de la justice, la liberté de la presse, les droits de la communauté homosexuelle, le partage du fardeau migratoire, les engagements sur le climat. Ça fait quand même beaucoup. Donc il est peut-être temps d'inverser le raisonnement, remettre la politique et les valeurs démocratiques au centre du village. Si vous ne voulez pas respecter ces droits, ces libertés, vous n'avez rien à faire dans l'Union. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Et si ces pays ne veulent pas sortir par eux-mêmes comme l'a fait le Royaume-Uni, eh bien alors c'est à l'Union de se resserrer. Et là, on retrouve l'idée de VGE sous une autre forme, une Union plus petite, avec un nombre de membres plus restreint, mais plus soudée, et sur la base d'un projet politique, pas d'un club budgétaire.
Le monde d'après de Jean-Marc Four, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Dans un instant, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Anaïs Sega et puis le téléphone sonne. Ne changez rien.